À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine. Aujourd'hui, deuxième volet de notre entretien. Hier, nous évoquions la cellule familiale et celle du parti qui ont fait votre éducation, qui ont forgé vos valeurs et une certaine culture. Aujourd'hui, Alain Krivine, c'est un autre mot d'ordre que nous allons évoquer, une autre famille, celle qui a réuni votre génération autour de l'anticolonialisme et de la lutte des peuples pour leur liberté. Alors on l'a vu, hein, vous êtes très touché par la guerre d'Algérie, par le désir d'indépendance des Algériens. Vous êtes mal à l'aise avec la passivité du Parti communiste qui a voté les pouvoirs donc, à Guy Mollet, comme on l'a dit hier, et vous décidez d'agir donc concrètement. Ce sera aussi ce chemin-là qui vous mènera au sein du mouvement trotskiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet itinéraire qui vous mène à aider le Front de Libération Nationale algérien?
Oui, ben, à l'époque, il y avait donc, contre la volonté du PC, qui était pour la paix, mais pas plus, en Algérie, il y avait donc ce qu'on appelait les réseaux de soutien au FLN clandestins, où il y avait des militants communistes qui faisaient ça en douce, des intellectuels, des chrétiens, etc. Donc mon frère, sachant que j'avais envie d'aider le FLN, m'a présenté un jeune qui, je l'ai su par la suite, était à la 4e internationale, dont l'organisation française, je l'ignorais d'ailleurs, s'appelait le PCI, Parti communiste internationaliste, et lui il s'occupait d'un des réseaux, il y en avait plusieurs, il y avait les réseaux Janson, etc., qui s'appelait, c'est de jeunesse clandestine qui s'appelait Jeune Résistance et dont le travail essentiel était d'organiser la désertion des soldats français qui voulaient pas servir en Algérie, de les faire passer en Suisse, etc. Donc il m'a demandé d'y adhérer, j'ai adhéré à Jeune Résistance, puis très vite je suis devenu un des responsables de cette organisation où j'ai appris beaucoup de choses. Bon, elle était clandestine, mais enfin bon. Donc ça consistait à non seulement à faire passer les déserteurs en Suisse, mais surtout à faire de la propagande pour que les soldats désertent. En gros, et la radio en parlait beaucoup à l'époque, on arrêtait les trains avec la complicité de certains cheminots. On arrêtait les trains soit en pleine campagne, soit avant les villes. Et sur place, il y avait des jeunes résistants, des gens de jeunes résistants qui distribuaient des tracts, qui appelaient à la désertion. Parfois même, on avait des jeunes qui étaient dans le train, même quand c'était un train mixte, civil-militaire, et qui en même temps distribuaient des tracts à l'intérieur du train. Donc on stoppait les trains qui partaient à Marseille, puisque les soldats partaient s'embarquer à Marseille. Donc ça, c'était une activité de jeunes résistants. Bon, j'y suis resté jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. C'était déjà le début du début de ce que plus tard on va appeler l'extrême-gauche, même si beaucoup en étaient pas, mais ça regroupait quand même plusieurs centaines de jeunes. Donc je veux dire, ça a été pour moi la première prise de conscience. Parallèlement, j'étais alors là, légalement, membre du parti, enfin des étudiants communistes, et c'est évident que mon activité, enfin les dirigeants communistes n'étaient pas au courant. Donc voilà, et ça a été sur ce problème de la guerre d'Algérie et de la lutte antifasciste, puisque comme vous le savez, à la fin de la guerre d'Algérie, il y a une organisation qui s'appelait l'OAS, l'organisation d'armée secrète, très forte en Algérie, qui faisait des petits en France, qui était d'extrême droite, qui faisait des attentats et tout. Et alors là, en dehors de mon activité clandestine, qui a été pour moi une première expérience, il y a une deuxième expérience, celle-là très très riche, qui est une expérience qu'on appelle dans notre jargon de travail de masse. C'est-à-dire on a créé ce qu'on a un large front unitaire antifasciste qui s'appelait le FUA, Front Universitaire Antifasciste, qui lui a regroupé des milliers d'étudiants et qui avait pour tâche de sensibiliser le millier d'étudiants sur l'OAS et d'empêcher toute initiative publique de l'OAS à Paris. Et on se réunissait tous les jours à midi, à plusieurs centaines dans la cour de la Sorbonne. On avait des gens en scooter qui se baladaient partout. Dès qu'il y avait une distribution de tracts de l'OAS, etc., boum, on intervenait immédiatement, on les balayait, on nettoyait le quartier latin, on a empêché un type très connu par la suite au Front National, Duprat, qui était à l'Institut de Géographie, on a même inscrit son nom, c'est resté encore jusqu'à il y a quelques années, on lui a interdit de rentrer à l'Institut de Géographie, on a foutu en l'air meeting salle des horticulteurs. Enfin, il y avait une activité, on s'est retrouvé à plusieurs milliers, avec des catholiques, avec des gens du PSU, avec des jeunes communistes et tout. Le PC était très, très embêté, il soutenait sans soutenir tout en soutenant. Et puis on a créé autour de nous un large front d'intellectuels pour être bien couvert, qui s'appelait le Facuira, bon, je traduis pas, c'est trop long, dans lequel il y avait Jean-Paul Sartre, Laurent Schwartz et tout. Et pour moi, ça a été la troisième expérience. Donc la deuxième, comment se retrouver dans une relation de masse et quel rôle on peut jouer là-dedans. J'ai appris énormément, et pas uniquement entre communistes, et à plus forte raison entre Trotsky, c'était beaucoup plus large. Mais la troisième initiative m'a permis là de prendre contact avec ce qu'on appelle les intellectuels français, l'intelligentsia, ce qu'un de mes potes qui est mort depuis, ça appelait la race des signeurs, mais c'était un peu péjoratif, parce qu'à l'époque, les intellectuels signaient. Il y avait eu l'appel des 121 pour soutenir la désertion, etc. Mais il faut dire que les intellectuels, moi je les salue, bon, je les ai connus de près, Jean-Paul Sartre et les autres, ils avaient eu le mérite de mettre leur notoriété au service d'une cause que le PC défendait pas assez. Et je trouve qu'ils ont joué un rôle extrêmement positif. Ça va durer très longtemps, hein, le rôle des intellectuels français face aux atermoiements un peu de la gauche traditionnelle.
Oui, ils signaient, puis ils finançaient, et puis ils vous couvraient aussi. C'est-à-dire que leur réputation, leur protégeait les militants qui
Absolument.
Menaient des actions.
Alors bon, de différentes ambiances. Je sais que par exemple Jean-Paul Sartre, moi je l'ai vu dans des réunions, il collait les timbres sur les enveloppes. Hein, ça, on faisait ça chez lui. Bon, c'est un côté à la fois naïf. En même temps, je le voyais après vendre un journal interdit des maoïstes, La cause du peuple, debout sur un bidon, à Renaud Billancourt. À la fois, il y avait le côté ridicule, c'est évident. Mais en même temps, respectable, c'est les deux, c'est toujours pareil. Devant la carence des autres, on pouvait dire simplement ben, respect hein, devant cette attitude et ce comportement.
Alors vous participez aussi, Alain Crivine, à une entreprise assez incroyable, pas toujours très connue, à cet échafaudage d'une usine d'armement au Maroc pour l'Algérie, qui était censée fournir des armes à la résistance algérienne.
Alors ça, c'est pas moi directement, c'est l'organisation où j'ai adhéré en 61, la 4e internationale, qui effectivement a mis en pratique ce qui est bien aussi, ces décisions de soutenir la révolution algérienne, mais eux, ils ont été plus loin, ils l'ont mis en pratique. Donc, à l'époque, ils avaient convoqué une série d'ouvriers spécialisés qui venaient de plusieurs pays, notamment d'Argentine, il y en avait deux de France, etc. Et avec l'accord plus ou moins des autorités du pays, ils ont construit une usine d'armement clandestine qui effectivement a fourni des armes aux Algériens. Donc ça a été une des initiatives de la 4e internationale. Il y a encore un ou deux survivants là en France que je côtoie, mais qui sont âgés maintenant. C'était dirigé par un Grec qui s'appelait Pablo ou Raptis et un Hollandais qui s'appelait Santen. Et ces initiatives sur l'Algérie. Après, il y a eu une tentative de fabrication en Hollande qui a foiré de faux billets pour aider le FLN aussi. Mais ça a foiré toujours avec les mêmes, quoi. Donc, c'est ça, d'ailleurs, je le dis très franchement, qui m'a aussi attiré à la 4e internationale. C'est de dire, ils sont peut-être pas nombreux, mais ils font. Mais je sais qu'il y avait d'autres trotskistes qui aidaient directement le FLN, faire des passages de militants en Suisse. Même moi, j'y ai participé un peu. Les bagnoles à Paris, on se met devant, on fait son lacet de chaussures quand il y a un barrage de flics pour que la voiture qui transporte un Algérien se détourne. Enfin, je veux dire, il y a eu une série d'activités de ce type qui, à mon avis, était indispensable et permettait de ne pas faire uniquement de la théorie.
Ça répondait aussi à, j'imagine, un désir d'action lié à votre jeunesse, à la jeunesse de cette génération-là qui se retrouvait dans ce combat anticolonialiste et aussi dans un désir de, ben voilà, de participer
non,
concrètement.
Non, ça c'est vrai, absolument. C'est pas uniquement... bon, moi je sais qu'à l'époque, donc je suis rentré au début des années 60 dans la 4e internationale, je sais qu'on soutenait à l'époque la lutte armée en Amérique latine. Bon, il y a des camarades français qui ont été apportés un peu d'aide là-bas. Il y a eu des pays où la lutte armée, c'était quand même des milliers de gens qui étaient concernés. Bon, donc je veux dire, il y avait effectivement... Alors ça correspondait à militantisme, à la jeunesse certainement, mais je vous dirais entre parenthèses, moi j'ai 70 balais aujourd'hui et je trouve que c'était très bien. Hein, donc, comme dirait l'autre, ça passe pas avec l'âge.
Alors il y a un autre moment fort dans cette épopée de la lutte contre la colonisation, c'est le moment du Vietnam, qui est aussi un moment fort en France, parce que c'est cette mobilisation-là qui mènera à mai 68. Vous participez à cette mobilisation contre la guerre du Vietnam, vous y participez à travers notamment les CVN, les fameux CVN, les comités de vigilance nationaux.
Absolument, le comité du Vietnam national, absolument, et vous avez raison de dire que plus tard, dans les événements de 68, on va retrouver toute une génération, une petite créée déjà à mon époque au moment de l'aide au FLN, et puis beaucoup plus largement l'aide à la révolution vietnamienne. Bon, le Vietnam, il faut le répéter, ça a joué un rôle, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais énorme, de radicalisation mobilisation d'une partie de la jeunesse étudiante dans le monde. Il y a eu des manifs de soutien énormes à l'époque où les Américains bombardaient au napalm, il y avait des massacres faits par les Américains au Vietnam. Donc il y a eu tout un mouvement énorme qui s'est développé. Nous en France, justement, on a créé ce comité Vietnam National, où à la différence des maoïstes, sans rentrer en détail, qui avaient créé leur propre comité, c'était pas un soutien inconditionnel au PC vietnamien, parce que bon, nous les trotskistes, on savait quand même que le PC vietnamien avait tué pas mal de trotskistes. C'est un parti qui était quand même d'origine stalinienne. Mais on soutenait la lutte du peuple vietnamien et tout, et bon, donc on a créé des comités partout, ça a été un, là encore unitaire, ça a été un élément de travail de masse, de politisation, de radicalisation, ça gênait la direction du PC, qui ne sait pas trop comment agir avec ça, parce qu'elle contrôlait plus. C'était la deuxième fois qu'elle ne contrôlait pas, après le FUA, un mouvement un peu important qui regroupait des milliers de gens. Et alors sur le plan, puisqu'on va aborder plus tard 68, il y a vraiment un lien direct, puisque quelques mois avant 68, on a réussi, grâce à nos coordinations internationales, à organiser à Liège, et puis ensuite à Berlin, deux grandes manifestations européennes, des comités de soutien, hein, pas entre nous, mais des comités de soutien. Bien. Et c'est là où j'ai fait la connaissance du leader un peu charismatique des étudiants révolutionnaires, même s'il était membre des jeunesses socialistes allemandes, Rudi Dutschke, qui par la suite va être assassiné, et ça donnera lieu d'ailleurs à un début de manif juste avant 68, mais je veux dire, c'est là où j'ai fait connaissance avec lui, parce qu'on a organisé ensemble cette manif de Berlin, où on a appris à manifester, par exemple, et une série de manifestations en 68, de slogans, de façons d'agir, du rôle du service d'ordre, tout ça, moi et pas que moi, et d'autres, on l'a appris à Berlin, par exemple, dans ces manifestations, parce que là-bas, le climat était très hostile. Je vous assure que faire une manif à cette époque, dans les rues de Berlin-Ouest, contre la guerre du Vietnam, il n'y avait pas un matou pour vous applaudir. Hein. Il y avait plein de flics et puis plein de gens hostiles, mais personne pour vous applaudir. Donc on s'est dit, oh là là, il faut se protéger. Et on a appris bon, à scander, à chanter, à, etc. Bon, ça a été ensuite exporté en France en 68.
Oui,
d'où le rôle de l'Allemagne. Oui.
Oui, effectivement, c'est l'apprentissage de la manifestation. D'ailleurs, on le voit, après, les manifestations organisées par les organisations trotskistes seront des manifestations plus festives, mieux organisées, avec un service d'ordre de jeunes gens casqués, prêts, bien organisés. Et c'est aussi, on le sait peut-être moins, c'est plus marginal, mais Jacques Higelin qui vient vous aider à apprendre à organiser des manifestations, à passer, voilà, c'est un peu le passage d'une génération, d'une manière de militer à une autre.
Mais c'est très bien de prendre l'exemple d'Higelin, parce que avec ce qu'il a fait, il a été à la croisière de ce que vous dites, de deux générations, parce qu'Higelin, en fait, était même membre de notre organisation. Il est venu chanter et répéter ses chansons avant une grande fête qu'on organisait devant nos militants. Et si je ne me trompe, il a chanté l'Inter, mais à sa façon, l'International, pardon, à sa façon, un peu de jazz et tout. Et alors, la moitié de la salle a été enthousiaste, mais l'autre moitié de la salle a hurlé. Là, les deux générations de Trotsky, je ne veux pas dire les anciens et les nouveaux, mais il y a eu dans la salle un mouvement dingue. Et vraiment, la moitié de la salle a hurlé, a sifflé, l'a traité de tous les noms, il dénaturait l'International. Je crois que c'est une des raisons aussi où ça l'a un peu écœuré, où il s'est barré, il nous a dit, bon, écoutez, allez régler vos problèmes. Mais je trouve que c'était intéressant, justement, parce qu'il y avait deux cultures, là. Après, on en reparlera, on va retrouver ça en 68.
Alors peut-être on peut revenir, Alain Krivine, justement sur cette histoire des jeunesses communistes révolutionnaires, les JCR, que vous organisez, que vous êtes chargé de diriger, une fois que vous avez vraiment finalement rompu avec le Parti communiste, contraint et forcé. C'est une organisation que vous allez mettre sur pied pour regrouper la jeunesse, justement la jeunesse anti-stalinienne.
Oui, alors il faut dire la vérité, quand on a été viré des étudiants communistes, au début des années 60, 63, un des thèmes, je me plais à le répéter maintenant parce que j'en suis vachement fier, et je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, ou mes copains, c'est qu'on s'était opposé au soutien du PC à la candidature de François Mitterrand. Vous vous rappelez à l'époque, et on avait dit, la seule raison qui poussait le PC, c'est que Mitterrand a été les voir dans leur local et il a signé un programme qui tenait, à l'époque il y avait des tickets de métro, en disant rigolant, l'importance du programme commun signé entre eux tient sur un ticket de métro. Donc nous on s'était rebellés, on a dit, c'est scandaleux, vous mettez Mitterrand, un politicien bourgeois, sur Orban. vite, le PC, c'est un scandale, on s'est fait virer. Là, je dois dire que là-dessus, on est assez fiers.
Vous avez fait un communiqué de presse.
Oui, il y a un communiqué de presse dans Le Monde, qui est paru dans Le Monde, où on expliquait pourquoi nous, les communistes, on était contre le soutien à François Mitterrand, politicien bourgeois et tout, mais franchement, c'était pas gouré. Bon, mais en dehors de ça, donc là, on a eu un vrai débat, c'est qu'on n'était pas habitué. Je veux dire, là, j'étais déjà membre trotskiste de la 4e internationale, mais on s'est dit, on va créer une nouvelle organisation. Nous, on était habitué à rentrer dans le PC, ce qu'on appelait l'entrisme en début d'émission, la première émission, c'est l'idée des trotskistes, c'était on est tellement petit qu'il faut rentrer dans le PC pour essayer de dégager une gauche, ou dans les jeunesses. Bon, mais là, on s'était fait shooter. Donc, problème, est-ce qu'on crée une relation indépendante ou pas? On ne l'avait jamais fait, ça nous semblait un truc fou. On a fait un stage en montagne avec notre grand théoricien qui est mort, mais très connu économiste, qui s'appelait Ernest Mandel. Et en pleine neige, je sais qu'on caillait comme je ne sais pas quoi, ça je m'en rappelle. Mais c'était, on crée ou pas une organisation, ça nous paniquait. On n'avait jamais fait ça de notre vie, nous. Ça devait être dans une autre organisation. Et on a dit, bon, ben, on va créer une organisation guévariste qui ne sera pas forcément à la 4e internationale, mais dont certains y sont. Et on a créé JCR comme ça. Donc, on va se retrouver avec une relation de jeunesse. Maintenant, il ne faut pas s'y tromper. Hein. On a démarré à 200-300. Ça va se remplumer en 61, mais 200-300. Parce que là, avertissement pour ceux qui m'écoutent, des fois, vous avez plein de sympathie quand vous quittez un parti, mais au moment où vous barrez, la plupart des gens restent. Hein. Et puis, vous vous retrouvez beaucoup moins nombreux pour créer autre chose. Hein. Il y en a qui... Donc, on s'est retrouvé avec une petite organisation qui va jouer un rôle en 68. Mais au début, on n'était pas gros. Hein. Bon, il y avait toutes les guerres coloniales, tout ça, ça nous a donné un peu de trucs. Mais enfin, dans le milieu social, dans la société, il ne faut pas dire qu'on était vraiment implantés.
Et justement, si on revient, vous dites que voilà, quand on part d'un parti, quand on est chassé d'un parti, on se retrouve un peu seul. Ça a été une rupture difficile de quitter justement cette structure, ce parti communiste qui était presque une structure familiale, comme on l'a dit hier.
Ben, oui, enfin, oui, parce que c'est les potes, c'est les coutumes. Ben, je veux dire, moi, j'étais vraiment hostile, mais quand j'ai été viré, j'étais convoqué au comité central du PC, où un gars n'osait pas me regarder dans les yeux pour me dire que j'étais viré. Mais oui, ça fait un peu quelque chose, parce que c'est une rupture. Puis à l'époque, quand on était viré, même les gens qui avaient de la sympathie pour vous, amicale même, pas forcément politique, vous fuyaient. Hein, on était devenus des pestiférés. Hein, et moi, je sais qu'ils avaient envoyé, j'étais à l'époque jeune prof au lycée Voltaire, et ma cellule voulait pas me virer, la majorité voulait pas me virer. Puis ils ont envoyé un grand ponte du parti, qui avait dû être au lycée Voltaire à l'âge de 6 ans, mais là, il devait en avoir 80, il est mort depuis. Georges Cogniot, sénateur, ponte du parti, il est arrivé tout de suite dans la cellule. Il a dit, moi, les trotskistes, je connais, évidemment, c'est les spécialistes de la lutte anti-trotskiste. Et finalement, ils ont réussi, moi, avec des couplages de cellules, je passe les détails, c'est sans intérêt, à trouver une majorité pour me shooter. Mais c'est vrai que ça fait un petit quelque chose. Bon, moi, de toute manière, j'avais mes idées, je savais que ce PC était pas réformable, etc. Mais j'avais quand même, il faut le dire, toute ma culture, j'ai appris plein de trucs dans ce parti, j'avais plein de copains, j'en ai encore plein. Je veux dire, on fait quand même partie niveau des militants de la même famille, et ça je le regrette pas, et je considère que c'est toujours la même famille, disons on est dans le même camp, même s'il y a un désaccord total avec la ligne suivie officiellement par ce parti.
Et vous disiez hier que donc votre frère est à l'origine de votre adhésion donc au trotskisme, au PCI au départ. Comment s'est fait ce glissement? Parce qu'au départ, vous adhérez donc par le biais de l'action pour le FLN, pour l'Algérie, presque sans le savoir. Et à partir de quel moment est-ce que vous adhérez consciemment au trotskisme, sachant que c'est presque un péché mortel quand on fait partie du Parti communiste à l'époque?
D'abord, je ne vous ai pas tout dit, parce que le deuxième secret, c'est qu'en fait, il n'y avait pas que mon jumeau qui était clandestinement trotskiste quand moi j'étais stalinien. Il y avait le frère au-dessus, là, qui était chirurgien, qui lui était trotskiste depuis l'âge de 14 ans, qui ne me l'avait pas dit. Donc il y en a deux qui m'ont trompé. Mais non, comment ça se fait? Ben, à l'époque, c'était pas comme maintenant au NPA, puis le NPA pas un centre trotskiste. Je veux dire, on adhérait individuellement. C'était vraiment. D'abord, c'était dur d'être trotskiste, parce que tout le monde rentrait dans la gueule. La droite disait « vous êtes des gauchistes », les staliniens disaient « vous êtes des fascistes ». Moi, petit souvenir, la première fois que j'étais candidat aux élections présidentielles, je suis allé devant les usines Renault. À l'époque, il y avait 3000 militants PC à Renault-Billancourt, debout sur un camion, entouré par 30 camarades de service d'ordre. Il y avait tout le PC dehors, des centaines d'ouvriers qui gueulaient « le fascisme ne passera pas » quand je suis arrivé, ce qui était un peu exagéré. Mais je veux dire, on se sent un peu seul hein, quand même, quand on se fait attaquer comme ça. Alors on adhérait vraiment... chaque individuellement. Et moi, un jour, bon, à force de discuter, je vous passe les discussions, l'Algérie, petit à petit, je lisais Le Canard des Trotskistes, et puis comme j'étais entouré que de Trotskistes, il me faisait avancer petit à petit. Puis un beau jour, il y en a un qui m'a dit, écoute, on va aller voir Pierre Franck. Pierre Franck, c'était le leader historique, ancien compagnon de Trotsky en France, du trotskisme. Et il a joué au con avec moi, mais moi, j'ai fait pareil après. Il n'a pas dit, je suis trotskiste, il a dit, on va aller voir Pierre Franck. Et puis on va discuter avec lui, c'est le responsable des Trotsky, on va quand même lui poser les mêmes questions qu'on se pose tous les deux. Alors on a été tous les deux voir Pierre Franck, petit local minable du Faubourg Saint-Martin, et il y avait mon Pierre Franck qui balayait les chiottes et qui m'a donné un balai dès que je suis arrivé pour bien montrer que, il me dit balai, on discute après, bon d'accord. Et puis on a discuté, et puis c'est à la fin de la discussion que j'ai appris que le type qui m'avait amené pour discuter avec Pierre Franck était un trotskiste depuis des années et des années. Il m'a dit, c'est le critère, si tu m'en veux, c'est que t'es pas mûr. Si tu m'en veux pas, c'est que c'est bon. Bah, j'ai dit, c'est bon, ça va, mais faut voir les motifs. Bon, aujourd'hui, ça fait rigoler tout le monde. Ça paraît dingue, hein, mais faut le dire, ça paraît dingue. Mais à l'époque, être trotskiste, les gens, on nous prenait pour des dingues. On en avait aussi quelques-uns, mais bon, ça, c'est normal.
Et est-ce que vous aviez l'impression de... Parce qu'effectivement, on vous prenait pour des dingues, vous étiez minoritaire, mais c'était aussi une trahison par rapport au Parti communiste. Est-ce que vous aviez aussi cette sensation de faire... Ce qui pourrait correspondre à une crise d'adolescence, quoi, de couper le cordon, de tuer le père. Voilà, il y a aussi tout ça dans le passage du Parti communiste au trotskisme.
Peut-être. Oui, mais alors là, disons, mon éducation était telle que... Moi, je pensais l'inverse. Je disais, c'est le Parti communiste qui a trahi le communisme. Ça, là-dessus, sinon, je n'aurais pas adhéré dans ce petit groupe. Quand j'ai adhéré à l'organisation trotskiste française, il faut donner les chiffres. Hein. Ils étaient moins de 120. Alors, il devait y avoir 40 millions de Français. Alors 120 à faire la révolution dans un pays de 40 millions de Français, faut y croire, hein. Et puis surtout, faut s'en donner les moyens. Bon, donc je veux dire, pour faire ce choix, c'est que vraiment, il fallait être motivé. Pierre Franck, je sais, quand j'ai adhéré, il m'a dit, tu sais Alain, il faut une peau d'éléphant pour tenir. Bah, à l'époque, hein, maintenant, c'est plus l'éléphant, c'est la gazelle. Mais donc, je veux dire, on était blindés politiquement, donc pour moi, c'est le PC qui avait trahi le communisme. Ça, j'en étais absolument convaincu au moment où je me suis fait virer.
Alors justement, vous avez évoqué à l'incrimine la question de la révolution, de la lutte armée. C'est une question qui va hanter aussi le secrétariat unifié de la 4e internationale. Alors, pour expliquer un peu, c'est le regroupement de toutes les organisations trotskistes au niveau international. Et donc, c'est des questions qui vont être permanentes dans ces réunions qui se font tous les 2 ou 3 ans. Et cette question de est-ce qu'il faut soutenir la lutte armée, est-ce qu'il faut passer du côté de la lutte armée, des questions qui sont très en lien avec justement ces luttes des peuples pour leur indépendance.
Non, ça je sais, c'est le premier congrès mondial de la 4e internationale où j'étais tout jeune, et il y avait la discussion, lutte armée ou pas en Amérique latine, il y avait des délégués qui venaient de tous les pays d'Amérique latine et qui étaient plutôt pour, il y en a d'autres qui étaient contre, hein. Et moi là-dedans j'étais hyper embêté parce que voter là-dessus c'est une responsabilité dingue, en plus personne posait le problème pour l'Europe, ça se posait pas. Bon, l'idée de la lutte armée c'est pas tellement ça qui me choquait, parce que bon, moi je suis pas pacifiste, je veux dire, il y a des moments extrêmes quand on a un soutien populaire où il y a pas d'autres moyens. Bon, je pense aux résistants contre les fascistes pendant la guerre. Donc il faut faire attention au terme de terroriste pour toute lutte armée. C'est absurde. Il y a des luttes armées de libération indispensables. Mais est-ce qu'en Amérique latine c'était valable, dans tel ou tel pays ou pas, avec des camarades qui allaient mourir, qui allaient être arrêtés en prison et tout. Et on a eu tout un débat là-dessus. Mais avec des groupes armés en Amérique latine, qui l'armée révolutionnaire du peuple, en Argentine, etc., c'était des milliers de membres. Hein. Alors bon, après il y a eu des problèmes de rapport avec nous, mais ça a été des milliers. Et je sais que moi, devant un choix pareil, des votes comme ça, pour moi, c'était drôlement compliqué. En même temps, on était un peu fascinés, je le cache pas. On collectait pour les camarades boliviens, pour etc. Et puis, il y a des camarades, encore au NPA, qui sont partis là-bas, en Amérique latine, clandestinement, bon, y compris pour filer un coup de main, hein, pour aider, faire des papiers, etc. Donc, on n'a pas la peine de le cacher, ça se soumet maintenant, ça fait longtemps. Mais je dois dire que maintenant, au niveau de la 4e internationale, il n'y a plus des votes comme ça, c'est beaucoup plus, je veux dire, on laisse les gens dans leur pays beaucoup plus libres d'intervenir. On ne demande pas à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de donner complètement des avis, surtout quand ça a de telles conséquences.
Oui, il y avait eu par exemple une polémique en 72, au moment des attentats de Munich, donc où ce groupe palestinien avait donc commis un attentat au moment des Jeux Olympiques de Munich, qui s'était soldé par des morts. Il y avait eu cette question de la Ligue communiste qui soutenait finalement cet attentat terroriste après l'avoir au départ désavoué. Il y avait des luttes intestines au sein de la Ligue communiste
aussi.
Oui, mais
on n'a pas soutenu en tant que tel. Je crois qu'on a dû dire, je ne me rappelle plus, à l'époque, la résistance était légitime, etc. Maintenant, les attentats individuels, à ma connaissance, je veux dire, nous, c'est pas vraiment pas notre truc et notre tasse de thé. Même si, je répète, il y a des moments précis où, le colonel Fabien, il a même sa station de métro, il a tué un officier nazi. Donc il y a des périodes où ça passe par là. Enfin, en règle générale, on est, nous, toujours pour l'action de masse, alors parfois armés, dans des situations absolument exceptionnelles, mais vraiment très rares.
Oui, il y avait ces questions qui étaient des questions qui reviennent régulièrement. Cette question du terrorisme comme une sorte de guerre de lutte des classes, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver à travers ce moyen-là une manière de combattre quand on n'en a pas les moyens.
Oui, alors ça, il y a des groupes qui ont été tentés... Plus tard, par exemple, ça a été le cas des Brigades Rouges en Italie, ça a été le cas d'Action Directe en France à une autre échelle, ça a été le cas de Bader et ses amis en Allemagne, mais nous, on a tout de suite pris position contre, je m'en rappelle, et il y a eu d'ailleurs peu de débats, mais en disant que c'était pas du... Et Dieu sait qu'en Italie, c'est le seul endroit où il y avait un soutien populaire qui n'était pas négligeable, il y a eu près de 30 000 personnes qui ont été plus ou moins inculpées pour l'aide aux Brigades Rouges. En Allemagne, c'était complètement minoritaire, en France, complètement minoritaire, mais en Italie, ça a eu un certain soutien. Mais je veux dire, ce genre d'action, moi je me rappelle les polémiques avec Action Directe, qui étaient très très violentes. Nous, on était absolument contre cette idée qu'on allait détruire le capitalisme en commençant par buter les patrons et les flics les uns après les autres. C'était aberrant, complètement aberrant. Et nous, on s'est vraiment battu contre.
Alors peut-être pour finir ce volet d'aujourd'hui, on peut évoquer finalement cette espèce de retour à l'usine, on pourrait dire, où on se dit que voilà, finalement la révolution sera lente, elle sera très progressive, où la lutte armée est finalement moins mise en avant, donc au milieu des années 70, où il y a comme ça un espèce de changement qui se fait au sein de la ligne de la Ligue communiste.
Au moment où on s'est créé, je dirais pas qu'il y a eu une affirmation un peu gauchiste, mais je veux dire, quand une organisation, ces quelques années, se crée, elle est obligée de faire apparaître à fond son identité. Elle peut apparaître comme sectaire, voire gauchiste par rapport aux autres, au début de sa création. Puis après, quand on commence à avoir une certaine implantation, on peut se rétablir, parce que pour moi c'est un rétablissement, c'est-à-dire savoir combiner le travail dans les syndicats, dans les entreprises, le développement du mouvement social, aujourd'hui on dirait effectivement du mouvement social, etc., et puis les grèves, les actions, parfois même des actions spectaculaires, ça on le fait aussi, on arrive à retomber un peu sur ses pieds, y compris, on n'est pas électoraliste, mais la participation aux élections, sauf exception, nous on est pour. L'électoralisme, c'est de dire aux gens, c'est par les élections qu'on va changer votre situation. Ça, c'est absurde. Nous, on dit toujours, c'est par le mouvement de masse, le mouvement social. Mais aller aux élections, parce que les gens y croient, les gens, c'est aussi un thermomètre, c'est une façon de faire connaître. Moi, je sais, j'ai été élu député européen, j'ai jamais fait croire que c'est par le Parlement européen et mon élection qu'on allait changer quoi que ce soit au Parlement européen. Mais je veux dire, on peut utiliser son mandat comme un délégué syndical. C'est tout bête, mais le fait qu'on ait eu des élus au Parlement européen, qu'on ait une centaine aujourd'hui d'élus dans les conseils municipaux, ça donne une certaine crédibilité. Tout le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait de son mandat et comment on se conduit.
Merci Alain Krivine. À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, chargé de réalisation Dominique Costa. Vous pouvez comme toujours réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.com. Demain, troisième volet de notre série d'entretiens, La famille étudiante, ceux de mai 68.